Paul de Garros, rival de sa fille, chapitre 4. Depuis le matin, un vent de révolte soufflait dans les bureaux de la maison Pérol et compagnie. Le fondé de pouvoir, surtout Félix Jaunard, qui depuis 12 ans était la main droite de l'amable Pérol, se montrait particulièrement exaspéré. Jamais chose pareille ne s'était vue. Comment un gamin de 24 ans, qui n'était pas dans la maison depuis 6 mois, à peine au courant de la banque, élevé comme ça, du premier coup à la dignité d'associé, mais il avait perdu la tête, le patron. Oh, il s'en préparait de jolis déboires. Laissez donc, Jaunard, interrompit le caissier. Le patron veut tout simplement faire son gendre de votre précieux Talleyrac. Ah, 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 oh, l'histoire est bonne. Ce fut un fou rire général. Mais savez-vous qu'elle aura peut-être plus d'1 million de dots, mademoiselle Pérol? Voyez-vous ce petit 100 sous accouplé avec elle? Oh, remarqua un employé plus sensé. Monsieur Pérol, ne sors pas de la cuisse de Jupiter. Je verrai dans ce mariage aucune mésalliance. Enfin, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, reprit le caissier. Mais il est un fait certain, c'est qu'on ne confie pas à un employé inexpérimenté une mission comme celle que Talleyrac vient de recevoir. Oh, savez-vous, mon cher, que c'est très délicat de négocier cet emprunt de 3 millions avec le représentant de la ville de Ghana. Je suppose que la négociation aboutira, c'est bien, mais c'est pas tout. L'intermédiaire endosse des responsabilités énormes à longue échéance, et si quelque bévue a été commise dans le couvent, dont les conventions sont primordiales, j'irais bien si la caisse de M. Pérol s'élégeait à cette occasion de quelques centaines de mille francs, fit Jaunard en se frottant les mains. Ta 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 ta, reprit l'employé moins emballé. Ne voulez pas me faire croire que M. Pérol a oublié à ce point toute prudence, non. Il est évident qu'il favorise Talleyrac à notre détriment, mais, à mon avis, cette mission n'est qu'une épreuve pour s'assurer du coup d'œil de son favori. Chut, l'auto du patron qui rentre. Il en descend et offre la main à une dame. Tiens, je croyais qu'il devait rester absent toute la journée. Chut donc. C'est Madame Morange. Elle a l'air de lui plaire, décidément, cette jeune veuve. Pour maman Pérol. Alors, messieurs, du silence, clama Jaunard. Monsieur Pérol prend l'escalier des bureaux. En effet, quelques secondes après, le banquier, accompagné de Madame Morange, entra avec sa majesté habituelle. On n'entendit plus qu'un bruit de plumes grinçant sur le papier, et quelques toussottements qui dissimulaient à peine le malaise général. « Si vous voulez bien me donner vos coupons, dit amable, on va vous les payer immédiatement. » La jeune femme sortit un élégant porte-carte d'où elle tira quelques coupons jaunes et bleus. Toutes ces rentes, oh, bien peu de choses. « Tenez, Jaunard, s'ordonna M. Pérol, faites dresser les bordereaux. Dès qu'ils seront prêts, vous les enverrez chez moi avec l'argent. » « Oh, mais j'attendrai bien, si ce n'est pas long, » fit Madame Morange. « Non, c'est inutile, madame, » insista le banquier. « Je ne veux pas que vous vous donniez cette peine. Il est si facile de vous l'éviter. »« Bon, allons, comme vous voudrez, alors, cher monsieur, je vous dis merci et au revoir. Vous avez sans doute acheté un coup d'œil à vos affaires. Je vous retrouverai tout à l'heure chez Madame Pérol. » « Mais pas du tout. Permettez-moi d'abord de vous accompagner jusque chez ma femme. »« Vous êtes trop aimable. Monsieur Talleyrac est donc en congé. Je ne le vois pas ici. »«
Oui, il est absent pour quelques jours. Je l'ai envoyé en province pour négocier à ma place. Une affaire importante qui lui donnera de jolis bénéfices. »«
J'en suis bien heureuse pour lui, qui est un charmant garçon. » Et pour sa pauvre mère, qui en a réellement besoin,
Le banquier s'exprimait à demi-voix et en même temps, il ouvrait la porte du palier qui commandait son appartement particulier pour indiquer à son interlocutrice qu'il eût préféré poursuivre cette conversation ailleurs. « Vous m'excuserez, madame, reprit-il lorsqu'ils eurent franchi le passage, d'avoir répondu aussi brièvement à vos questions sur François. Mais je me défie beaucoup des dispositions de mes autres employés à l'égard de Talleyrac. Parce que je m'occupe de lui d'une façon spéciale, comme compatriote et parent de ma femme, le pauvre garçon est en butte à leur inimitié. Il s'en plaint. Oh, jamais, il est trop charitable et trop discret. Mais je le devine aisément, à son air souvent préoccupé. Il venait d'entrer dans le salon. « Tiens, mademoiselle Hélène !» s'écria Pérole. « Oh, je ne savais pas que j'aurais le plaisir de vous trouver ici !»« Mais ne vous l'ai-je pas dit ? Oh, Dieu, que je suis distraite !» fit Claire, quand vous m'avez recueillie sur l'avenue de l'Opéra. « Je venais chez vous, plutôt pour chercher ma fille, et voir madame Pérole que pour toucher mes rentes. » « Monsieur, dit Hélène, si vous aviez déjeuné chez nous, au lieu de courir à vos affaires, vous sauriez que Mathilde a eu la bonne idée de m'envoyer chercher ce matin et que nous avons passé une journée charmante. » Madame Pérole, qui lisait dans sa chambre à côté du salon, arrivait encapuchonnée d'une mantille de dentelle, les traits fatigués. « Oh, comment, chère madame, encore cette affreuse migraine ! Comme je vous plains. Bon, ça ne sert à rien. Or, si j'avais su que vous fussiez souffrante, je n'aurais pas permis à Hélène de venir vous déranger. Mais madame, nous avons été très sages, interrompit Mathilde d'un ton moitié badin, moitié boudeur. Vous oubliez que nous sommes de grandes filles. La méchante langue, murmura Claire. Ne supposez-vous donc pas capable de vouloir me rajeunir ? « Ce serait une coquetterie sans raison d'être, objecta le banquier, avec un sourire de sincère admiration. Madame Morange ne put s'empêcher de rougir. « Oh ça, dit-elle, mais vous serez donc incorrigible !» Il sourit, sans rien trouver à répondre. À cet instant, Jonas entrait avec ses bordereaux. La jeune femme, pour ne pas avoir l'air de compter son argent, glissa or et billets dans son réticule avec un geste d'indifférence. Puis quand le banquier fut sorti avec son employé, elle reprit, s'adressant à madame Pérole. « Savez-vous, chère madame, ce que monsieur Pérole me disait tout à l'heure à propos de monsieur Talleyrac, qui vient de déléguer à sa place en province ? Non ? Tous les autres employés sont horriblement jaloux de cette manque de confiance et ne se gênent pas, paraît-il, pour manifester leur mécontentement. Monsieur Pérole, sans doute, a de bonnes raisons pour agir ainsi, n'est-ce pas ? Au surplus, n'est-il pas naturel qu'on témoigne à un parent plus de sympathie que de bienveillance à un étranger ? D'autant plus, ajouta madame Pérole, que mon mari est réellement très satisfait de François. À l'autre bout du salon, les deux jeunes filles suivaient attentivement cette conversation. « Il est non seulement intelligent et travailleur, continuait madame Pérole, mais aussi d'une sagesse et d'une économie exemplaire. Croiriez-vous qu'avec ses 300 francs par mois, il trouve le moyen de vivre et d'envoyer encore, quelle que soit sa mère ?» Hélène eut un sourire attendri et Mathilde un haussement d'épaules. Sa mère vit ce geste dédaigneux et le releva sévèrement. « Oh, tu n'as pas grand mérite, je t'assure, Mathilde, à trouver ridicule la conduite de ton cousin quand tout le monde l'admire. »« Mais je ne trouve pas la conduite de mon cousin ridicule, » répliqua Mathilde froissée. « Elle m'étonne, voilà tout. Ce qui mérite, c'est qu'en tout et pour tout, on est toujours l'exemple de François à citer. » Bien, c'est qu'en effet, sa conduite est digne de tous les éloges. » Hélène et sa mère, que cette courte discussion mettait dans une posture assez délicate, se disposaient à prendre congé lorsque le banquier entra. « Comment vous partez déjà, mademoiselle ? Oh, en tout cas, je ne vous laisserai pas retourner à pied chez vous. J'ai donné l'ordre à mon chauffeur de vous attendre.
Vous êtes trop aimable, vraiment. Je vous remercie infiniment.
En route, Madame Morange chercha à confesser sa fille et à savoir pourquoi celle-ci paraissait si émue chaque fois qu'il était question de François Talleyrac. Et Hélène, après bien des réticences et bien des hésitations, finit par lâcher le grand aveu, à savoir que François lui faisait une cour assidue et qu'elle était loin d'y être insensible. « Alors, c'est un projet de mariage en règle, » conclut Madame Morange.
« Oui, maman, si tu n'y vois pas d'inconvénient. »«
Aucun, ma chère enfant, si tu crois que cette union puisse faire ton bonheur. » La jeune fille battit les mains. «
Mais ne crains-tu pas, » reprit la jeune veuve, « que Mathilde ne soit pour toi une rivale dangereuse ?»
« Oh non, non, rien à craindre de ce côté-là, Mathilde m'a donné sa parole. »«
Alors, je vois que tu as pris toutes tes précautions. »«
Il n'y a qu'un obstacle à redouter, » murmura Hélène après un court silence. « C'est la mauvaise volonté de la mère de François. »«
Ah, vraiment ?» balbutia Madame Morange, légèrement troublée.
Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage, l'auto venait de s'arrêter devant leur maison, et cette intéressante conversation resta là, laissant en suspens une question capitale. Chapitre 5. Le mois de janvier était arrivé et la température était devenue tout à coup rigoureuse. Les amateurs de patinage étaient aux anges et les membres du skating club parlait d'organiser une grande fête de nuit sur la glace. Comme chacun sait, l'annonce de cette fête est généralement le signal du dégel. Pour le moment, le jour de cette sélecte réunion n'était pas définitivement arrêté. Il gelait et ferme. Il ne restait aux frileux amateurs du coin du feu qu'à se confiner chez eux. M. Dorcel, qui se rangeait dans cette catégorie, n'osait plus mettre le pied dehors. Il serait bien parti pour Nice, mais il eût été pénible de quitter Paris maintenant, car il ne sentait une telle inclination pour Mademoiselle Morange. Il éprouvait un véritable plaisir à la voir, à lui parler et à lui faire la cour en attendant de pouvoir poser sa candidature. Justement, ce jour-là, il envisageait l'éventualité d'une résolution à prendre. Cela l'énervait. Comment serait-il reçu? Quelle serait l'issue de l'affaire? Certes, d'Hélène, il est à peu près sûr. Cependant, les jeunes filles sont si changeantes. D'autre part, la mère, la coquette et séduisante veuve, comment prendrait-elle cela? Et puis le grand-père? Et les questions de dot, d'intérêt? Quelle corvée que de se marier! Les pieds sur les chenets, Bernard, seul après déjeuner, dans ce petit salon de la rue de Bellechasse, savourait un excellent cigare en prenant son café. Du fauteuil où il était assis, son regard allant distraitement des hautes potiches en satsuma qui décoraient la cheminée jusqu'à la fenêtre, errait au-delà vers le quai d'Orsay où les arbres apparaissaient poudrés de givre. « Quel chien de temps tout de même! Comme il fallait bien d'un amoureux et sans sou pour ne pas fuir un climat pareil! C'est par ces ciels sombres que la vie semble plus triste à traverser seule. C'était maintenant qu'il eût été doux d'avoir près de lui une femme pour réchauffer dans sa tendresse son cœur vide. Un coup discret frappé à la porte interrompit ses méditations. « Entrez » fit-il. Le domestique s'effaça pour laisser passer une femme jeune et élégante qu'au premier abord, sous son épaisse voilette et l'engoncement de boa, Dorcel ne reconnut pas. Lorsqu'elle fut devant lui en pleine lumière, « Ah, Madame Morange !» s'écria-t-il sur un ton de joyeuse surprise. « Oh, je vous demande pardon, il fait si sombre ici !»
« Et vous vous attendiez si peu à me voir, n'est-ce pas » dit-elle franchement.
« Oh, madame, Je ne suis pas comme ces vertueux provinciaux qui se voilent la face lorsque, en allant chez leur maîtresse, ils passent devant une statue sans feuilles de vigne et... Mais c'est très méchant ce que vous dites là. Alors je commettrais un gros crime en entrant chez vous, si l'on s'en rapportait à l'hypocrisie de nos provinciaux. Mais vous, madame, vous êtes parisienne, très parisienne. Allez, vous, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. » Elle jeta son boa sur une chaise, dégrafa sa jaquette d'estracan et se pelotonna avec un joli mouvement de chatte frileuse au fond d'une chauffeuse qu'il avait approchée de la cheminée. « Vous venez, j'en suis sûr, » reprit-il, « me reprocher ma négligence. Allons, j'aime mieux me confesser tout de suite. C'est vrai, je suis atrocement coupable et je dois implorer toute votre indulgence. Pourtant, j'ai des excuses. D'abord, cet abominable froid me paralyse, je n'ai plus le courage de sortir. Vous allez me répondre que, pour un paysan auvergnat comme moi, ça ne s'explique guère et que vous, d'ailleurs, vous ne vous laissez pas arrêter pour si peu. Oh, je n'ai aucun mérite, je ne crains pas le froid. Ensuite, ce qui me vaudra peut-être mon pardon, je pensais précisément à vous quand vous êtes entré. Je me proposais d'aller, malgré tout, vous voir ce soir, de braver les intempéries. Madame Morange, toute préoccupée, écoutait à peine. Ses yeux allaient des petites flammes bleuâtres qui s'échappaient des bûches en crépitant au guéridon encore chargé du service d'un café, se demandant pourquoi il y avait deux tasses en face l'une de l'autre. Bernard comprit. « Non, non, c'est pas ce que vous croyez, » dit-il. « Un de mes amis m'avait promis de venir déjeuner avec moi. Il n'a pas tenu sa parole, mais j'ai de la connaissance. J'ai fait servir son café quand même, à tout hasard. »« Ah !» fit-elle simplement. « Voyons, » reprit le jeune homme, « je vous ennuie à vous parler de moi. Essayons de vous plutôt. D'abord, comment se porte M. Mirval et Mademoiselle Hélène ?»« Merci, ma fille va bien. Elle est sortie cet après-midi avec son grand-père. Ce matin, j'ai envie la prise d'aller fatiner. Et comme je ne pouvais pas la conduire, c'est son grand-père qui a dû l'accompagner. Mais c'est d'une grande imprudence de la part de M. Mirval par ce froid. Que voulez-vous ? Mon père est toujours d'une faiblesse avec Hélène. » La jeune femme s'arrêta, dissimulant avec peine un geste d'impatience. On sentait qu'elle avait sur le bout de la langue quelque chose à dire, et au contraire, plus la conversation, mal partie, avançait, plus cela l'éloignait de son sujet. Alors, brusquement, elle releva la tête, et regardant Bernard en face, « Vous savez, dit-elle, si je n'ai pas accompagné ma fille, c'est que j'avais besoin de vous voir, de vous parler. Dès nos premières entrevues, vous m'avez inspiré une grande confiance. J'ai donc pensé à vous demander conseil dans l'embarrassante situation où je me trouve. » Elle parlait très vite, par phrases hachées, mais les yeux constamment attachés sur ceux du jeune homme. Lui, un peu intimidé par ce rôle inattendu qu'on le priait de remplir, s'était rapproché pourtant, et intrigué, attentif. « Vous avez eu raison, madame, dit-il, de compter sur mon dévouement. Vous êtes entièrement acquis. Et la confiance que vous m'accordez est tellement flatteuse que je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Je ferai tous mes efforts pour m'en montrer digne. » « Merci, mon bon ami, » fit-elle en lui tendant la main, comme pour sceller ce pacte d'amitié. Elle était si mignonne, cette petite main, si finement attachée et montée par le gant de Suède, Elle fleurait si bon que Bernard, pris soudain d'un accès de galanterie bien naturelle, la saisit et l'effleura de ses lèvres. Claire fit d'un geste de pudeur effarouché et un mouvement comme pour la retirer. Ce n'était qu'une fausse manœuvre. Sentant que le jeune homme la retenait, elle ne résista pas. Puis très tranquillement, elle reprit de sa voix la plus douce, la plus caressante. « Oh, je n'abuserai pas de votre complaisance. Voici en deux mots ce qui me tourmente et me fait vivre depuis des semaines des continuelles inquiétudes. Mon père, qui est âgé, souvent malade, a comme un pressentiment qu'il s'en ira bientôt. Il ne voudrait pas nous laisser, ma fille et moi, seuls au monde. Deux femmes isolées, sans appui, se tirent mal de la flûte. Leur conduite est bien difficile. Elles ont vite fait de prêter le flanc pour des riens, aux médisances, à la malignité du public. Oui, ces inconvénients peuvent se produire, dit Dansel. Quoiqu'avec de la fortune, on y échappe plus facilement. Bref, pour parer à tout danger de ce genre, mon père voudrait me marier. Il m'a trouvé un parti convenable. C'est un ancien officier d'une cinquantaine d'années, encore vert, possédant une petite aisance. Ne faites pas cela, madame, ne consentez jamais, dit Bernard avec vivacité. Elle se méprit sur le sens de cette exclamation. Elle a pris pour un cri de jalousie, alors que Dansel n'avait songé qu'à lui et au partage possible d'une fortune qu'il convoitait. Madame Orange était jeune encore, elle pouvait fort bien avoir des enfants, et lui, s'il épousait Hélène, verrait proportionnellement diminuer sa part d'héritage. Il fallait à tout prix empêcher cette folie. Il reprit plus calme. Vous êtes venue, chère madame, me demander un conseil d'ami. Je répète, ne vous mariez pas. Et je le dis avec d'autant plus de liberté qu'au ton dont vous m'avez fait cette confidence, je crois deviner que vous êtes de mon avis. N'est-ce pas? C'est bien cela, oui, je ne me trompe pas. Vous n'avez jamais eu la moindre velléité d'épouser cet officier, et encore moins l'ombre d'une inclination. Bernard sentit la main de la jeune femme trembler dans la sienne. Oh, « Oh non, pas la moindre inclination, je vous le jure » fit-elle en riant de bon cœur. Il se rapprocha encore un peu, séduit, attiré par le charme émanant de cette adorable créature, faite tout entière pour les caresses et les baisers. « C'est que, voyez-vous, » poursuivit-il d'une voix légèrement troublée, « j'aurais été désolé de vous causer la plus petite contrariété. J'ai parlé selon mon cœur, je vois maintenant que c'est aussi selon le vôtre, tant mieux. Je ne serais pas consolé de vous avoir fait de la peine. » Elle lui sourit en se renversant, les yeux fermés, au fond de la chauffeuse. Elle resta ainsi un instant, car à travers ses paupières mi-closes, elle sentait les yeux de Bernard fixés sur elle, enflammée de désir, l'enveloppant toutes d'effluves amoureux, et elle aurait voulu prolonger indéfiniment cette enivrante sensation. Enfin, se redressant, « Oh, quelle chaleur ici !» dit-elle. Et elle fit mine de se reculer. Dansel rêvait, il ne répondit pas. « Je vous remercie de tout cœur, » reprit Claire, du conseil loyal que vous m'avez donné. Vous savez, on est mauvais juge dans sa propre cause. Ce mariage me révoltait. J'étais décidé à le repousser, mais comme je n'avais pris avis dans cette résolution que de moi, que de mes sentiments personnels, je craignais de me tromper. Je craignais que mon égoïsme ou mes répugnances ne me fissent voir seulement mon propre avantage et négliger l'avenir de ma fille. Car en définitive, il faut bien le reconnaître, si mon père venait à nous manquer, ce mari qu'on m'offre serait un protecteur pour Hélène. Oh, rien ne le prouve, interrompit Bernard. Loin d'être un protecteur, ce beau-père pourrait n'être qu'un tyran et devenir même un obstacle à l'établissement de votre fille. Car celui qui prétendra à la main de mademoiselle Hélène pourrait bien ne pas voir d'un œil favorable sa belle-mère toute jeune, remariée depuis peu. Elle le comprit à demi-mot et sourit. « C'est possible, » fit-elle. « Malgré cela, j'hésite encore. Voyons, réfléchissez. Vous êtes sincère me parlant ainsi. Votre réponse n'est pas intéressée. » Bernard eut un éblouissement. Le voile qui couvrait ses yeux s'était déchiré brusquement. Fallait-il qu'il fût sot pour n'avoir pas deviné de suite que cette consultation était une fable inventée à plaisir, et que lorsqu'une femme de cette allure et de cet âge se présente chez vous seule, si vous pourrez chercher autre chose que des conseils. Une femme qu'il avait poursuivie de ses galanteries, désirée avec une sorte de rage, elle venait s'offrir là, maintenant, d'elle-même, et comme un niais, il se contentait de discourir avec elle sur les avantages du mariage. « Mais c'est vous, madame, reprit-il, qui n'êtes pas sincère, en demandant si ma réponse est désintéressée, car vous êtes convaincue d'avance qu'elle ne l'est pas. Vous savez très bien que, si je m'oppose à votre mariage, c'est que je vous... » Un petit frisson d'attente la secoua. « C'est que je vous aime !» Elle eut un geste de déception, à peine déguisé. « Oui, c'est que je vous aime !» Oui, elle le savait depuis longtemps, ça. Il l'avait dit souvent déjà. Du moins, il la désirait. C'était ce qu'il appelait de l'amour. Mais elle était sceptique. Ces amours-là ne durent pas. Quelques mois au plus, et la femme qui a eu la faiblesse d'y céder paye cher sa complaisance. Non, non, non. Plus d'une union libre. Pas d'une union libre. « Oui, je vous aime, Claire, répéta-t-il, ardemment, éperdument. Et depuis que je vous connais, vous avez été la seule lumière de ma vie, de ma pauvre vie, sombre et désolée. Aux heures de crise, votre pensée m'a soutenu. Car il faut vous l'avouer, mon existence est atroce, sans amitié autour de moi, sans personne à qui me confier. L'amour que je vous ai voué a été... tout pour moi, m'a consolé dans les moments les plus désespérés. Je vous dois tout, peut-être de vivre même. Oh, ne dites pas cela. Si, si, à certains jours, le dégoût profond dont j'étais accablé m'eût poussé à des résolutions. Non, je vous en prie, Bernard. Alors vous comprenez le coup que j'ai reçu quand vous m'avez parlé de ce mariage. Vous appartenir à un autre, vous que j'adore pieusement au fond de mon cœur. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alors je vous ai un cri de révolte, je l'ai tout fait pourtant pour n'en paraître calme, pour vous conseiller. Mes forces m'ont trahi, pardon. Pouvais-je garder mon sang-froid devant cette menace? Vous à un autre, oh Claire! Que j'entende votre voix me promettre, me jurer, que vous ne serez jamais qu'à moi seul. » Il était si près d'elle que sa réponse, un oui prononcé tout bas, se perdit dans un baiser. Elle ne se défendit pas. Elle se sentait dans les bras de Bernard. C'était le bonheur tant rêvé. Un fiacre attendait devant la porte. La jeune femme y monta, accompagnée jusqu'à la porte par M. d'Orcel. Et lorsqu'elle fut seule dans la voiture, elle ne put retenir un cri de rage. « C'est trop bête, vraiment, d'agir ainsi, quand on veut se faire épouser !» Remontée seule dans son salon, assise de nouveau au coin de la cheminée, d'Orcel était pour lui-même beaucoup plus sévère. Pendant quelques minutes, il épuisa à son endroit tout un répertoire d'épithètes malsonnantes. Il était furieux contre lui, contre Claire, contre tout le monde. Et comment pourrait-il songer désormais réalisait son projet d'épouser Hélène Morange. Chapitre 6. Talleyrac était revenu de Ghana avec tous les honneurs d'une mission fidèlement et heureusement remplie. Le banquier, plein d'admiration devant l'habileté déployée par son employé, ne parlait de rien moins que de lui donner, dès maintenant, une part importante dans les bénéfices de sa maison. En attendant, et comme premier témoignage de satisfaction, il lui remit 3 000 francs de gratification. Pour le jeune homme, habitué à se contenter de si peu, c'était l'aisance, l'aurore de la fortune. Hélas, malgré cela, François était plus sombre, plus découragé que jamais. Car à ses instances, pour obtenir de sa mère qu'il lui laissa épouser Hélène Morange, la vieille provinciale, austère et têtue, avait persisté à répondre : « Non, mon enfant, tu ne peux pas épouser cette fille-là. Vois-tu, on tient toujours un peu de sa mère. Si tu avais connu la mère comme je l'ai connue. » Voilà pourquoi Talleyrac, bien qu'Hélène fût de plus en plus affectueuse et confiante à son égard, devenait de jour en jour plus taciturne, plus inquiet. Si bien qu'un jour, M. Pérol, qui lui portait un sincère intérêt, se décida à l'interroger. « Voyons, mon cher ami, qu'est-ce que vous avez ? Depuis quelque temps, vous n'êtes plus le même. Vous souffrez, c'est visible, mais de quoi ?» François, très troublé, fut d'abord dans l'impossibilité de répondre. Puis, lorsqu'il eut repris son sang-froid, lorsqu'il se fut rendu compte que son cousin lui voulait réellement du bien, il déchargea son cœur. Il conta sa vie depuis 6 mois, son amour naissant pour Mademoiselle Hélène Morange, à l'époque où il l'avait rencontrée à la Motte, ses efforts pour se créer une position qui le rapprocherait d'elle, ses espérances encouragées par la jeune fille elle-même et enfin le refus formel de sa mère de consentir à ce mariage. Pérol, pendant ce récit, avait passé par des phases successives d'étonnement, de déception et de colère. Comment ce petit solsou qu'il avait mis à même de faire fortune, dont il avait rêvé de faire son gendre, lui faussait compagnie, c'était trop fort, vraiment. Mathilde, il est vrai, n'en voulait point comme mari, mais elle ne voulait de personne, pas plus d'un prince régnant que de n'importe qui. C'était une manie dont il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Encore quelques années, elle se montrerait moins difficile. Et ce jour-là, elle serait heureuse de trouver Talleyrac. Après que le jeune homme eut achevé sa confession, le banquier resta un instant silencieux. Enfin, il dit : « C'est fort bien, cela, mon ami, mais ça ne mène pas à grand-chose, ces petites amourettes. » « Pardon, répliqua François blessé, c'est très sérieux. Je ne travaille que pour m'élever jusqu'à Mademoiselle Morange. » Pérol fut sur le point d'éclater. N'allait-il pas prendre ce petit présomptueux par les deux épaules et le jeter dehors? Il réfléchit, réprima ce mouvement de mauvaise humeur et poursuivit doucement. Ainsi, mon cher François, vous désirez épouser Mademoiselle Morange. C'est parfait, mais pour se marier, il faut posséder d'abord de quoi soutenir un ménage. Bon, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, je travaillerai. Alors, reprit le banquier, si tout est arrangé et si rien ne vous inquiète, que puis-je faire pour vous? François prit son courage à deux mains. « Tout, mon cousin, tout » murmura-t-il. « Vous seul pouvez renverser l'obstacle qui me sépare de Mademoiselle Hélène, c'est-à-dire avoir raison de l'entêtement de ma mère qui s'oppose à notre mariage, parce que Madame Morange... »« Compris, » fit Pérol, « des potins de village hein, qui ont couru dans le temps sur Madame Morange. C'était un monsieur Bresson, n'est-ce pas ?» Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Oui, Bresson, c'est bien cela. Oh, certes, je ne plains pas, l'heureux garçon. Bien d'autres auraient voulu partager les mêmes faveurs. Elle est capiteuse en diable, vous savez, cette femme. Écoutez, mon bon, entre nous. Je comprends un peu les raisons de votre mère. C'est ennuyeux de vous donner une belle-mère aussi évaporée. Capiteuse en diable, oh, pour ça, je vous le concède. François poussa un soupir. Ainsi, continua-t-il, vous ne voudriez pas vous charger d'intercéder pour moi auprès de ma mère. Vous êtes le seul qui puissiez réussir. Elle vous est profondément reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi, pour oser refuser. Je vous en prie, mon cher cousin, je vous devrai le bonheur. Non, non, franchement, mon pauvre ami, je ne peux pas. Voyons, mettez-vous à ma place. Je n'ai aucune qualité pour m'immiscer dans cette affaire. Mais pourtant, reprit Talleyrac, vous m'aviez promis votre appui, vos conseils, et vous me les retirez. C'est vrai, répondit le banquier. Je vous avais promis mes conseils avant mon appui, parce que je prévoyais que l'un serait moins utile que les autres. J'ai plus d'expérience que vous, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez me croire, renoncez à Mademoiselle Morange. Ce n'est ni la jeune fille, ni la famille, ni la dot qui vous conviennent, entendez-vous? La jeune fille est gentille, je ne le conteste pas, mais on la dit très peu forte de poitrine, et elle tousse souvent. Je ne l'ai pas remarqué. Comme famille, dame, avouez-le, c'est pas la crème. D'abord, l'existence équivoque de Madame Morange. Alors pourquoi la recevez-vous chez vous? Moi, oh, c'est pas la même chose, moi. Je me moque des potins. Votre famille ne s'en moque pas. Ça ferait très mauvaise impression, là-bas, dans le pays, si vous épousiez cette jeune fille. Talleyrac hocha la tête sans répondre, flairant dans ses contradictions un dessein d'opposition systématique. Quant à la fortune du père Mirval, continua le banquier, je la connais, elle n'est pas bien considérable, donc je me contenterai de ce qu'il y a. Laissez donc, mon cher, dans 2 ou 3 ans, vous regretteriez d'avoir agi avec autant de précipitation. Non, mais peu m'importe toutes ces questions d'argent, interrompit François, agacé. Mais, mon ami, l'argent est tout au contraire, riposta M. Pérol. C'est lui qui règle dans la vie le bonheur ou le malheur. Non, décidément, en bonne conscience, je ne puis pas vous encourager à faire cette bêtise. Je suis même décidé à tout tenter pour vous empêcher de la commettre. C'est inutile d'insister, mon cousin. Ma résolution est prise et irrévocable. Cette fois, le banquier eut toutes les peines du monde à ne pas s'emballer. Un peu de pitié et un reste d'espoir le retinrent. Mais il n'eut pas le temps de formuler la phrase conciliante qu'il préparait. Le jeune homme, après l'avoir salué froidement, se retirait. Le lendemain matin, Talleyrac reçut de Pontalier une lettre lui annonçant que sa mère était plus souffrante et désirait le voir. Il se rendit aussitôt près de son patron pour solliciter un congé de quelques jours. Pérol fut affable, conciliant. « Mais mon cher ami, je n'ai rien à vous refuser, dit-il, surtout dans une circonstance comme celle-ci. Partez quand vous voudrez et revenez le plus tôt possible. Ce sera la meilleure manière de nous montrer que votre excellente mère est guérie. Allons, bon voyage, mes meilleures amitiés là-bas. Et sans rancune, n'est-ce pas? Si je vous ai affligé hier soir, c'est pour votre bien. » Chapitre 7. Par un riant après-midi de la fin de mars, Dorcel, accouté à l'appui de sa fenêtre, jouissait avec délices des premiers rayons du soleil printanier, lorsque tout à coup, en tournant les yeux du côté du boulevard Saint-Germain, il aperçut Madame Morange qui descendait de voiture au coin de la rue de l'Université et se dirigeait vers sa maison. Il referma sa fenêtre pour aller au-devant d'elle. La jeune femme entra comme chez elle, défit son chapeau et câlinement lui tendit ses lèvres. Distraitement, Dorcel y posa les siennes. Puis sans paraître remarquer l'appel caressant qu'on lui faisait, il prit sa maîtresse par la main, la fit asseoir près de lui et se mit à la contempler longuement, mais sans affection, de l'air préoccupé d'un homme qui veut aborder une explication et qui n'ose pas. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ? » fit-elle, curieuse et inquiète. « Qu'avez-vous ? » « Oh, ne rien, » murmura-t-il. « Je suis comme toujours très heureux de vous voir. Votre présence m'est si douce. Et c'est parce que vous êtes heureux de me voir que vous me recevez de cette façon. Il est impossible, je vous le certifie, de lire la joie sur votre visage. Voyons, vous me cachez quelque chose. » « Mais non, j'assure. Si, si, si. Bon, ben, c'est-à-dire que j'ai des ennuis, comme on en a toujours. La crainte d'abord, en vous voyant venir chez moi, qu'on ne finisse par s'en apercevoir. Que M. Mirval ou Mlle Hélène n'apprennent. Bon, vous savez bien que je prends toutes les précautions nécessaires, qu'il est impossible de soupçonner le motif de mes absences. » Ça n'empêche pas qu'à mon avis, on doit avoir chez vous plus que des soupçons. Oh, oh, songez que votre fille a 18 ans, qu'elle n'a pas les yeux dans sa poche. Les jeunes filles qu'elle fréquente ne sont pas toutes des anges de candeur. Je suis convaincu qu'elle aura deviné ou entendu juger devant elle votre conduite. Madame Morange restait pensive. Alors, reprit-elle au bout d'un instant, vous voulez pour cela que nous interrompions nos relations? Ah, vous voyez bien que vous ne m'aimez plus, que votre cœur est ailleurs. Pauvre cher ami, mais pouvez-vous parler ainsi? Moi qui n'ai qu'une pensée, vous rendre heureuse, vous évitez tout souci, toute contrariété. Pouvez-vous m'accuser de la sorte? Mais si j'attire votre attention sur le danger qui vous menace du côté de votre famille, n'est-ce donc pas parce que je vous aime plus que moi-même, parce que je veux, même au prix d'un sacrifice personnel, que vous redoubliez de prudence afin d'échapper à ce danger? Mais ce n'est pas une raison pour que vous vous montriez si dur à mon égard, dit-elle les yeux mouillés, pour que vous m'interdisiez presque votre porte. Vous savez que vous êtes tout pour moi, Bernard, que la vie sans vous me serait insupportable. Oh, je ne vous ai pas interdit ma porte, Claire, n'exagérez rien. Oh, à peu près. Il est bien évident qu'en venant, je vous ennuie, parce que vous avez peur d'un scandale. Mais ingrat, va, est-ce que depuis que je suis à toi, je n'ai pas surmonté plus de difficultés que toi? Et j'hésitais cependant. Et si on découvrait quelque chose, n'est-ce pas moi seul qui en souffrirais? Qu'avez-vous à redouter, vous? L'homme n'a-t-il pas toujours le beau rôle dans ces sortes d'affaires? Et le monde, qui se montre impitoyable pour la femme faible ou trop aimante, n'a-t-il pas toutes les complaisances pour son amant? Mais ce n'est pas de moi que je m'inquiète, ma chérie, c'est de vous seule. Non, non, je me trompais, continua-t-elle sans entendre. Vous craignez une chose. Le ridicule d'avoir pour maîtresse une vieille femme, c'est cela qui vous inspire ces conseils de prudence. Folle, va, murmura-t-il, mais tu as l'âge que mon amour t'a donné. Voyons, mon ami, soyons sérieux, fit-elle en se dégageant. Un baiser n'a jamais dénoué une situation embarrassante. Réfléchissons plutôt. Ben, c'est ce que je faisais quand vous êtes entré. Et la conclusion de vos méditations était que cette vie n'est plus tenable. Alors il faut rompre, ne plus nous revoir. Non, non. Reprendre les relations superficielles et banales d'auparavant, en ce cas. Bon, non, ce serait absurde. Alors quoi? Quoi alors? Eh bien, bon, j'avais pensé que nous pourrions, par exemple... Il hésitait, cherchait ses mots,
ne semblant pas convaincu de la force de ses arguments, ou doutant par avance de leur efficacité. Nous pourrions, par exemple, nous séparer pour quelques semaines, quelques jours. Et pendant ce temps, les soupçons tomberaient, et nous serions plus libres ensuite. Je partirai pour la campagne dans le courant d'avril, je m'installerai dans ma vieille bicoque d'Auvergne, et à l'époque des vacances, quand vous viendriez à votre tour à la Motte, chez les Pérols, nous retrouverions. Voilà ce que j'avais combiné, je crois, enfin, je croyais que c'était sage. Et vous le croyez encore?
Oui, enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça dépendra.
Qu'en penses-tu, toi, ma chérie? Oh, je pense, mon ami, que c'est un congé en bonne et due forme que vous me donnez là, voilà tout. Non, mais je pourrais revenir ici de temps en temps, insinua-t-il timidement. Nous nous reverrions. Oui, une heure ou deux pour nous quitter ensuite et augmenter nos regrets. Non, non, j'aime mieux la rupture complète, puisque vous êtes décidé, ajouta-t-elle, les larmes aux yeux. Qui vous parle de rupture? C'est une épreuve nécessaire à notre tranquillité, tout simplement. Lorsqu'on aime, on ne réfléchit pas tant. On accepte les épreuves si on ne peut pas les éviter. Mais on ne cherche pas à s'en créer d'inutiles. Et les pleurs inondaient son visage. Dorcel ne put dissimuler un geste de découragement. Oui. « Je vous comprends, reprit Madame Morange, je vous ennuie avec mon chagrin. Vous autres hommes, vous n'admettez pas que la femme qui s'est laissée prendre à vos pièges souffre de votre indifférence et, outragée de n'avoir pas été l'objet d'un caprice, cherche à défendre jusqu'au bout le cœur qu'elle a payé si cher. » Le jeune homme poussa un soupir de résignation et baissa la tête sans rien dire. « Oh, moi aussi, Bernard, continua-t-elle, moi aussi, malgré mon apparente insouciance, j'ai souvent, depuis 3 mois, réfléchi à la position fausse où m'avait placé ma liaison avec vous. J'ai compris que cette liaison ne pouvait pas se prolonger indéfiniment, à cause de ma fille que je dois respecter, à cause de mon père qui ne transige pas, vous le savez, sur ces questions-là, à cause de tout, enfin. »
« Je ne m'explique pas alors, ma chère amie, dit Bernard, pourquoi lorsque tout à l'heure j'exprimais la nécessité de suspendre nos rendez-vous, pourquoi vous manifestiez une aussi vive opposition ?»«
Bien, c'est que vois-tu, murmura-t-elle, je n'ai jamais envisagé notre rupture comme une éventualité réalisable. Quand je me donne, Bernard, je me donne tout entière. Pour toujours. » Pour moi, le mutuel consentement qui nous a unis, c'est un lien indestructible. Il la regarda effaré. Oh, ne craignez rien, je ne suis pas folle, continua-t-elle en souriant tristement.
Je le pense bien, mais quelle est votre conclusion? Demanda Dorcel.
Ma conclusion, c'est que cette union n'est pas suffisante pour tout le monde, pour ma famille, pour notre entourage. Il faut la régulariser, suivant les formules convenues, lui donner la banale sanction des lois civiles au moins. Le jeune homme resta muet de surprise. Que pouvait-il dire d'ailleurs? Pouvait-il en un tel moment montrer le fond de son cœur, laisser deviner le projet qu'il hantait? C'eût été une honte. Alors il ne trouva rien de mieux que d'ergoter pour essayer de se donner raison. Tandis qu'au fond, il était forcé de s'avouer que Claire était logique en lui proposant le mariage. Mais la discussion ne pouvait pas se prolonger longtemps ainsi. Et Madame Morange, exaspérée, ne tarda pas à trouver un prétexte pour se retirer en claquant la porte.